Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de Chromebook, la nouvelle génération d'ordinateurs de Google. Quand Google m'a demandé d'être ambassadrice de leur nouvel ordinateur portable, j'ai tout de suite été hyper intéressée. J'utilise Google pour tout. Entre mes différentes activités et adresses Gmail, j'ai des agendas partagés dans tous les sens et plein de fichiers sauvegardés dans le cloud. Du coup, j'étais vraiment intriguée à l'idée de découvrir ce fameux Chromebook et à vrai dire, étant un peu old school en la matière, je ne savais pas trop si j'allais accrocher. Eh bien, je peux vous dire que je n'ai pas été déçue. Déjà, mon Chromebook est ultra léger, je le glisse dans mon sac et l'emmène partout avec moi, c'est hyper pratique. Et deuxièmement, j'ai accès à toutes les applications de la G Suite, comme Google Docs par exemple. C'est simple, tout se fait sur le cloud, mes documents s'enregistrent et se synchronisent automatiquement. C'est vraiment idéal pour bosser à plusieurs avec mes équipes. Bref, vous l'aurez compris, si vous recherchez un ordinateur portable efficace, pratique, sécurisé et avec une interface vraiment intuitive, alors je ne peux que vous recommander le Chromebook. Personnellement, je l'ai adopté encore plus vite que je ne l'imaginais. Salut la team podcast, ici Pauline Léniaud et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast pour vous aider dans vos questionnements personnels et professionnels. Et les lundis, j'interviewe des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Le mercredi, je réponds à vos questions sur des thèmes variés autour de l'entrepreneuriat, du business de manière générale, du marketing, des réseaux sociaux, des recrutements aussi, et j'en passe. Alors aujourd'hui, je suis avec Céline. Céline qui vient tout juste de lancer le site Brillance Paris avec sa sœur. Et vous pourrez d'ailleurs retrouver leur marque sur Instagram, @BrillanceParis, tout attaché, Brillance, B-R-I-A-N-C-E Paris. Ou par mail aussi à contact@brillanceparis.com. Alors après 10 ans dans l'industrie hôtelière, Céline et sa sœur décident de sauter le pas et de proposer des solutions de nettoyage sur mesure à leurs clients, tout en plaçant l'environnement au cœur de leur ADN de marque. Mais Céline a des questions et me pose la problématique suivante. Elle me dit, faut-il intégrer tout son personnel ou faire le choix de sous-traiter? Si oui, à quelle hauteur et quels enjeux cela représente-t-il? Au final, Céline me pose une question assez fondamentale. Quel est le cœur de valeur de son métier, de sa boîte? Et comment doit-elle organiser sa structure pour y contribuer au mieux? Comme à chaque fois, évidemment, ma réponse n'engage que moi. Et vous verrez que, contrairement à ce que Céline anticipait peut-être, j'ai eu tendance à lui proposer une approche en plusieurs étapes. D'abord, quand on démarre son activité, on ne peut bien évidemment pas tout de suite avoir les mêmes moyens qu'une fois qu'on est bien installé. Et même s'il faut garder une vision long terme, les premiers mois ou les premières années même de l'entreprise doivent aussi permettre d'apprendre et de connaître ses besoins humains notamment, et permet donc de tester vraiment quelle approche sera ensuite à déployer ultérieurement. J'espère que cet épisode de la leçon vous plaira, j'espère aussi qu'il vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, ça me fait vraiment sincèrement hyper plaisir et ça m'aide aussi d'ailleurs à choisir mes futurs sujets. Faites-le sur Instagram ou sur LinkedIn, vous me trouverez assez facilement, ou sinon, pourquoi pas directement sur iTunes en mettant un avis sur Apple Podcast. Ça m'aide aussi énormément et puis vous savez que je les lis, donc n'hésitez pas. Mais je vous en dis pas plus, c'est parti pour la leçon du gratin. Allô Céline ?
Bonjour Pauline !
Salut, bienvenue sur Le Gratin.
Merci à toi de me recevoir, c'est une bonne opportunité.
Ça me fait très plaisir. Écoute Céline, raconte-moi un petit peu ce que tu me disais sur Instagram, raconte-moi ton histoire et puis quelle est ta question?
Super, au niveau historique, moi je suis la cofondatrice avec ma sœur Élise de l'entreprise Brillance Paris. Un petit peu de background pour nous deux, on est toutes les deux diplômées d'école hôtelière avec une dizaine d'années dans l'hôtellerie haut de gamme en France et à l'étranger.
Génial.
Depuis à peu près un an et demi, deux ans, on réfléchit à, on avait un réel souhait de créer un projet avec du sens pour nous. Et on voulait aussi mettre nos différents savoir-faire et nos convictions à disposition de nos futurs clients. Mmh. C'est un peu comme ça qu'est né Brillance Paris. Donc Brillance, c'est quoi? On a pour ambition, en fait, de dévoiler une autre façon de prendre soin de son intérieur, de son chez-soi.
D'accord.
L'intérieur, le foyer.
D'accord.
C'est une entreprise de services ménagers.
D'accord, ok.
Qui est spécialisée dans les nettoyages de fond. Donc, par nettoyage de fond, j'entends tout ce qui est nettoyage de printemps, après travaux.
D'accord,
par exemple,
les gros nettoyages, quoi.
Du gros nettoyage, voilà. Okay. Ça peut être aussi les gens qui ont une résidence secondaire qui vont quelquefois nettoyer avant leur arrivée ou après leur départ.
Ok, ça marche.
Donc, ça, c'est ce qu'on fait. Après, on avait une valeur forte de respect qu'on voulait mettre en avant. dans l'ADN de l'entreprise, qui est le respect, et plus particulièrement le respect de la santé de nos collaborateurs et de nos clients, à travers, on a pour ambition de réduire, voire à moyen terme, supprimer toute l'utilisation de produits chimiques,
nocifs,
perturbateurs endocriniens, etc.
Top.
Parce que je pense qu'on peut, pour l'avoir vu, sûr qu'on peut arriver à de très bons résultats sans produits chimiques.
Génial.
Au niveau de nos clients,
J'allais te dire, ça fait combien de temps que vous êtes lancé et du coup, quelle est ta problématique du moment que tu voulais me poser?
Oui, alors au niveau, pour parler de la problématique, aujourd'hui, c'est notre question, on est en phase de lancement, on a pour objectif d'obtenir nos premiers clients en octobre,
Donc
c'est assez rapide, c'est bientôt, et notre question aujourd'hui, la question que je souhaiterais poser, c'est faut-il intégrer tout son personnel opérationnel au sein de l'entreprise ou faire le choix de sous-traiter? Si oui, à quelle hauteur et quels sont les enjeux, par exemple financiers, culturels, au niveau de la culture d'entreprise, juridique? Et enfin, est-ce qu'il y a des moments propices dans la croissance de l'entreprise pour faire ces choix-là?
Alors déjà, c'est une super bonne question. Ce n'est pas une question facile. Et surtout, je tiens juste à dire qu'évidemment, il n'y a pas de réponse unique à ça. Moi, ce que je peux essayer de faire pour t'aider, c'est te dire que je pense que déjà, évidemment, tu peux commencer par avoir des freelances ou des prestataires de services. Il faut évidemment faire attention, si tu veux, notamment au niveau de l'URSSAF, à ce que ces personnes-là ne soient pas considérées comme des personnes qui, en fait, sont employées de manière, cachée, si tu veux, par ton entreprise. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'ils aient d'autres activités de freelancing que la tienne. Donc, ça, c'est un point qui est hyper important. Mais après, ce que je peux te dire, c'est que, à mon avis, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous réfléchissiez à qu'est-ce que vous voulez avoir, vous, comme cœur de compétences en interne? Parce que les compétences que vous allez avoir en interne, c'est des personnes du coup que tu vas devoir recruter et c'est des personnes sur lesquelles tu vas beaucoup investir de temps, d'énergie. C'est des personnes que tu vas responsabiliser et qui, normalement, devraient monter et aussi voler leurs propres ailes. Et donc, c'est des personnes, normalement, qui vont pouvoir créer de la valeur que toi-même, tu ne créerais pas. Donc, je ne sais pas exactement, dans le cadre de ce que tu me dis, quel type de personne tu aurais en tête. Ce qui est certain, c'est que sur la partie, vraiment des opérations, le nettoyage, etc., à mon avis, vous pouvez quand même commencer déjà pour tester, parce que c'est un certain coût aussi d'avoir un employé, tu vois, de commencer par des freelances, de voir comment ça se passe. L'avantage de tester avec des freelances, c'est que tu vas voir aussi ce qui compte ou ce qui compte pas pour toi. Plutôt que, tu vois, de t'engager tout de suite avec un employé, tu vas te dire, ok, moi j'ai besoin d'avoir tel type de personne, super rigoureuse, peut-être que la ponctualité c'est clé. Donc faut pas que tu hésites en fait à essayer de comprendre en fait qu'est-ce que tu as besoin aussi d'avoir dans ton entreprise. Et une fois que tu le sauras, tu peux commencer à te poser de la question d'embaucher cette personne. Alors, soit dans le secteur effectivement du nettoyage, si tu penses que c'est important, peut-être qu'il faut que ce soit les responsables qui sont en interne qui aillent vérifier, je ne sais pas. Ça, il va falloir que tu y réfléchisses et que tu réfléchisses aussi à la fois à votre capacité financière, tu vois, parce que j'imagine que vous ne pourrez pas embaucher tout le monde non plus, malheureusement. Mais que tu réfléchisses et que surtout tu te mettes pas trop la pression et que tu dises que les choses vont procéder par étapes. C'est tout à fait normal de commencer, tu vois, avec des freelances. Enfin, moi, par exemple, dans le cadre du gratin, là, pour l'instant, j'ai pas d'employés pour m'aider, mais par contre, j'ai des freelances qui m'aident et ça m'aide énormément. Et je me dis, de temps en temps, j'aimerais bien avoir quelqu'un à temps plein qui puisse me faire décoller le gratin encore plus. Mais pour l'instant, j'ai pas les moyens de le faire. Et tu vois, je me dis que ça va venir. Et donc, en fait, je me dis aussi que j'affine un petit peu ma connaissance de ce que j'ai réellement besoin d'avoir. Et ensuite, je pense que je pourrais embaucher. Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire à l'inverse, tu vois. C'est d'embaucher quelqu'un sans avoir, entre guillemets, de fiche de poste précise et de savoir ce que cette personne doit faire. Pas parce que c'est grave de faire un peu tout, tu vois, au début d'une entreprise, c'est normal d'être un peu polyvalent et de toucher à tout, mais surtout parce qu'en fait, pour que ça fonctionne bien avec cette personne-là, va falloir vraiment qu'elle ait une mission qui est claire, va falloir la responsabiliser. Donc ça peut être, par exemple, quelqu'un au marketing, et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire connaître votre marque, réussir à avoir de nouveaux clients, du marketing commercial. Ça peut être au contraire quelqu'un qui va chapeauter toutes les opérations, donc quelqu'un qui va être en charge de faire en sorte que ça tourne bien, que tu as tout le temps des équipes qui sont là pour réussir, même si c'est des freelances, pour réussir, tu vois, aller répondre à tous vos besoins clients, que ça soit très bien géré, que ça soit nickel. Ça peut être quelqu'un peut-être sur la comptabilité. Ça, à la rigueur, si tu veux, ça va être à toi d'y répondre. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que dès lors que tu as quelqu'un en interne, moi, ce que je te conseille de faire, c'est vraiment de le responsabiliser, lui donner une mission qui est simple mais très claire, qu'il sache en gros qu'est-ce qui est attendu de lui et pas le micromanager en lui disant aujourd'hui, le lundi matin, il faut que tu fasses tel truc, parce que ça va l'infantiliser, c'est pas très agréable. Et puis surtout, en fait, s'il est bon, il faut tout simplement que tu apprennes à lui faire confiance et à lui dire que il a telle mission, il faut qu'il se débrouille entre guillemets pour y arriver bien. Alors évidemment avec certaines contraintes financières, de temps, etc. Mais je pense que c'est la meilleure manière de fonctionner. Et du coup, je parle beaucoup, pardon, mais pour répondre à ta question, moi, je pense qu'il faut probablement que tu commences avec des freelances et c'est très bien pour vraiment savoir ce dont tu as besoin. Et quand tu vas commencer à identifier que tu as vraiment un besoin récurrent, une mission récurrente, et ben là, il faudra que tu commences à te poser la question, effectivement, d'embaucher quelqu'un. Aujourd'hui, en fait, d'accord, tu me posais la question surtout pour les personnes qui gèrent les tâches ménagères ou c'était pour d'autres besoins dans le cadre de l'entreprise?
Bah, bien sûr, il y avait le personnel ménager. Donc ça, je pense que du coup, ces éléments de réponse, ça répond très bien de tester et ensuite voir. Mais après, voilà, il peut y avoir d'autres postes, comme tu l'as aussi dit, au niveau, je ne sais pas moi, communication gestion d'autres. Bah, il y a d'autres postes qui peuvent se créer, donc je pense que c'est effectivement une bonne stratégie de tester, préciser nos besoins et éventuellement après embaucher en interne dans un second temps.
Et moi, ce que je peux te conseiller, parce que j'ai vu beaucoup, beaucoup de personnes, et sincèrement, j'ai fait cette erreur, évidemment, au début de ma boîte aussi, c'est classique et c'est parce que c'est dur. Donc déjà, tu fais quelque chose de difficile, il faut que tu le saches. Et donc, il ne faut pas que tu te mettes trop la pression non plus. Mais ce qui est certain, c'est qu'au début, on a trop de boulot en tant qu'entrepreneur et donc, on n'a pas le temps de tout gérer. Et donc, on se dit, tiens, il faut que j'embauche. Et c'est en général comme ça que ça se passe.
D'accord.
Mais le problème, en fait, de ça, c'est que si tu embauches quelqu'un, comme je te disais, sans vraiment lui donner une mission précise et que cette personne, elle est juste là pour, en gros, te dépanner sur tout ce que tu n'arrives pas à gérer, bah, sincèrement, tu vas pas avoir le temps de t'en occuper, cette personne elle va pas pouvoir se développer, elle va aussi bah, comme toi être crevée et bosser sur tout et elle va pas se spécialiser et vraiment connaître son métier et réussir à développer en fait ce pan de ce métier. Donc vraiment c'est pour ça que moi j'insiste un peu sur le fait que je pense que c'est pas mal que tu commences à tester, que tu vois les trucs sur lesquels tu te dis ah bah en fait je pense que par exemple en communication, en marketing, moi je suis pas la bonne personne pour le faire, mon associé, ma sœur c'est pas la bonne personne pour le faire, on aurait besoin d'avoir une compétence, peut-être commence par des freelances pour savoir ce qui compte une fois de plus pour toi. Et quand je dis qui compte, c'est en termes de compétences, mais aussi, tu vois, en termes de personnalité, parce que peut-être que tu vas te rendre compte que pour bosser bien dans ta boîte, en fait, il faut, je ne sais pas, quelqu'un qui soit, t'aimes par exemple, je ne sais pas, les personnes qui sont très curieuses. Enfin, c'est des valeurs d'entreprise, si tu veux, qui comptent et qui sont difficiles à saisir au début quand tu n'as jamais eu ce type de poste et qu'en plus, tu n'as jamais embauché. Donc, je te conseille de vraiment essayer de visualiser très, très fort, après tous ces tests, quel est le type de personne que tu rêves d'avoir. Ensuite, tu fais une fiche de poste qui est hyper précise, quitte à avoir pas énormément de réponses, mais comme ça, au moins, tu auras des réponses très, très qualifiées et tu trouveras certainement la bonne personne. Alors que le problème, c'est que si tu fais, tu sais pas vraiment ce que tu veux et que tu fais une recherche très, très large, tu vas trouver plein de gens et probablement des gens très bien, mais ils vont être frustrés et toi aussi parce que, en gros, ils vont tirer un peu dans tous les sens et personne ne sera content. Donc, je te conseille vraiment, vraiment de tester d'abord et de vraiment savoir mais exactement ce que tu veux. Je t'assure, ça va considérablement t'aider.
Est-ce que de recruter quelqu'un avec des tâches non précises.
Ouais, avec des tâches précises, avec surtout une mission précise, avec des attentes, c'est-à-dire, en gros, tu vas lui dire, je dis n'importe quoi, donc c'est au marketing, tu vas lui dire, cette personne-là, toi, ta mission, c'est une mission de visibilité, par exemple, faire connaître ma boîte, ma marque, donc essayer de créer le plus possible de visibilité pour ma marque. Idéalement, ce qu'il faut, c'est que tu crées ce qu'on appelle des KPIs, c'est-à-dire des Key Performance Indicators, c'est-à-dire en gros, simplement, en fait, quelques chiffres clés, par exemple, augmenter ta visibilité sur Instagram, donc avoir, 10 000 followers ou 5 000 followers sur Instagram, ou peut-être ça veut dire avoir X centaines de visites sur ton site internet par mois. Donc, il y a quelques indicateurs clés chiffrés que cette personne, en fait, va devoir essayer d'atteindre. Comme ça, ça lui donne, si tu veux, un but, ça lui donne, en fait, une mission qui est précise. Tu lui dis pas comment faire. Toi, tu es là en support pour l'aider si elle a des questions, des besoins. Mais par contre, tu vas pouvoir la guider, l'aider en lui disant ce qui est attendu d'elle. Parce qu'une fois de plus, bien souvent, quand on embauche, en fait, on veut faire un peu tout à la personne. Et souvent, c'est ce qu'on appelle micromanager, c'est-à-dire qu'on lui dit fais ça, fais ça, fais ça. Mais toi, en fait, si tu as un employé, ça passe. Si tu commences à en avoir 3-4, tu vas pas pouvoir dire à tout le monde ce qu'il faut faire tout le temps. Et surtout, ça déresponsabilise les personnes. Et pour eux, c'est pas marrant non plus. Et ça ne les met pas, si tu veux, à la valeur, ça ne leur donne pas la valeur qu'ils pourraient avoir à l'entreprise. Donc, à la rigueur, c'est ça la délégation. Dis-leur juste ce que tu attends d'eux et ce que tu aimerais avoir comme objectif auquel ils répondent. Et ensuite, essaye juste de les guider un minimum. Mais par contre, c'est eux qui doivent, si tu veux, te trouver des solutions. C'est ça, si tu veux, une bonne collaboration d'entreprise. Et donc, dans le cadre du marketing, comme je te disais, ça peut être d'abord le premier axe, un objectif de visibilité. Et puis, un deuxième axe, par exemple, d'acquisition client. Donc, que cette personne, en fait, soit en charge tout simplement de t'apporter des leads, donc c'est-à-dire des prospects qui vont demander des devis, par exemple. Cette personne-là n'est pas forcément celle qui ensuite va transformer ses prospects en clients. Ça, c'est peut-être plus le rôle d'un commercial ou d'un service client, tu vois, au téléphone qui va le faire. Mais par contre, cette personne est en charge de t'apporter, de créer de la traction de clients. Et ça, tu vois, c'est une mission qui est simple, mais précise. Et du coup, ça va te permettre de savoir quel type de personne tu vas avoir. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui va savoir faire du web marketing, parce que si tu veux avoir des clients, peut-être que ça sera via le web marketing. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Mais disons qu'il faut vraiment, vraiment que tu réfléchisses aux missions qui comptent pour toi. Comme ça, ensuite, tu vas pouvoir dérouler le fil, tu vois, et essayer de ensuite vraiment comprendre qui est cette personne et aussi comment tu vas la trouver, tu vois.
Et comme tu l'as dit au début, savoir le cœur de métier.
Exactement, ça c'est important aussi. Ça c'est aussi au niveau financier, tu vois, c'est vrai que toi je sais pas exactement quel est ton business model, mais je pense que la question va se poser sur la partie femme et homme de ménage, comme on disait, c'est-à-dire est-ce que ces personnes-là sont internalisées à l'entreprise ? Ça peut être un choix. Tu vois, ça peut être un choix d'avoir vraiment toutes les opérations. Ça veut dire que probablement tu vas garder un certain contrôle sur la qualité, qui est très important. Peut-être que tu pourras créer une belle culture d'entreprise aussi. Et puis, tu vois, même au niveau, on va dire, de l'éthique, tu vois, ça créera de l'emploi. Enfin, ça a pas mal de valeur. Après, il faut que tu saches qu'au niveau financier, nécessairement, en fait, ça va être plus important. Donc, il faut que tu essayes de réfléchir à ça. Et qu'est-ce qui compte pour toi ? Qu'est-ce que tu veux externaliser ? Qu'est-ce que tu veux internaliser ? Ça, je peux pas trop y répondre. Je sais pas si tu as un avis déjà sur cette question.
J'ai vécu les deux en entreprise. Il y a du bon à internaliser. Il y a du bon à externaliser. Après, c'est plus... un des freins c'est à externaliser, à sous-traiter, ça va être est-ce qu'à un moment en fait l'entreprise à laquelle tu sous-traites ne peut pas passer en direct avec tes clients?
Ah bah oui,
par exemple.
Et puis autre chose aussi, ça, nous par exemple dans ma boîte, on externalise la fabrication, on n'a pas nos propres ateliers aujourd'hui, mais on travaille avec 5-6 ateliers, on a plus de 150 artisans qui travaillent sur nos bijoux uniquement. Mais pendant longtemps, on s'est posé la question, et d'ailleurs on envisage toujours d'internaliser la fabrication. Le truc, c'est que comme je te disais, ça coûte très cher, parce qu'en plus, nous, il faut des fours, enfin, c'est un investissement qui est très important. Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'avoir une seule source en fait d'externalisation, donc un seul prestataire avec lequel tu travailles, ça c'est assez risqué. Au début tu peux commencer comme ça, c'est pas grave honnêtement, mais avec le temps il faudra évidemment que tu diversifies tes risques et que tu essayes d'avoir, si tu continues à externaliser, plusieurs prestataires pour éviter le genre de problème que tu me disais, parce que si le problème c'est que tu as un seul prestataire, il peut tout à fait te dire ah bah merci mais maintenant aujourd'hui mes prix c'est x10, tu vois, et tu pourras rien faire. Donc c'est absolument crucial que tu commences avec un, et dis-toi en fait c'est pas parce que tu commences petit que t'as pas dans ta tête la vision de plus tard avoir 3-4 prestataires. Et c'est pareil pour tout, c'est pareil pour tes freelances. Peut-être que tu sais que tu vas commencer par externaliser, mais qu'en fait toi ta vision à terme c'est d'internaliser, j'en sais rien, ou d'internaliser certains métiers comme le marketing par exemple. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut que tu commences petit, que tu testes, ça c'est indéniable, et ensuite que tu aies la vision plus tard de ce vers quoi tu veux tendre. Et en termes de prestataires, effectivement en avoir plusieurs, ça me paraît assez essentiel.
Très bien.
Bon. Écoute, en tout cas, Céline, merci pour ta question. J'espère t'avoir un peu aidé quand même. C'est pas facile, mais une fois de plus,
oui,
pour te rassurer, je te rassure quand même, c'est normal que ça soit dur, parce que c'est les débuts, que c'est dur de décider ce qu'il faut faire, c'est dur aussi d'embaucher, tu verras, c'est dur de manager. Donc, t'es au début d'une belle aventure, mais j'espère que pour toi que ça va bien se passer. En tout cas, essaye souvent de juste utiliser un peu ton bon sens, de vraiment te dire, qu'est-ce que je pense être le mieux pour mon entreprise, pas des on-dit, des et des autres, pas ce que tu lis dans la presse, mais vraiment ce qui compte pour toi et ce que tu penses être en accord avec ta vision et tes principes. Et tu verras que je pense que ça roulera très bien. Tu auras forcément des moments difficiles, mais tu auras aussi des moments de joie quand tu auras tes premiers clients, quand ils vont en plus te remercier, te dire que grâce à toi et à ton entreprise, ils ont réussi, tu vois, je sais pas, un très bon déménagement, qu'ils sont hyper heureux dans leur nouvelle maison. Donc essaye de te rattacher aussi aux bonnes nouvelles, parce que c'est quand même ça aussi l'entrepreneuriat, c'est pas que gérer des problèmes.
Merci Pauline.
Merci à toi.
Merci pour tes conseils.
À bientôt. Et voilà, terminé pour aujourd'hui. Un grand, grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles ou même un petit commentaire sur l'application iTunes. Et puis si iTunes, c'est pas votre truc, si Apple, vous n'avez pas envie d'en entendre parler, c'est pas grave, vous inquiétez pas, il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous. Prenez 2-3 amis et puis diffusez-leur le podcast. Moi, ça m'aide énormément et qui sait, ça les aidera aussi peut-être. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. N'hésitez pas à postuler aussi à la leçon du gratin si l'idée de passer sur le podcast vous intéresse. Donc à vous de jouer, et bientôt pour une nouvelle leçon du gratin.